dans ce débrief sur RCB Radio Ciel Bleu, en compagnie de Rémi et de Gwen, comme chaque rendez-vous rugby. Salut à vous.
Salut Seb, salut Gwen, salut à tous les auditeurs.
Salut Seb, salut Rémi et salut à tout le monde.
Alors, en ce samedi, deux jours après cette première défaite de la saison, c'était face à Lyon jeudi soir aux alentours de 23h, un peu tard quand même, pour un horaire assez différent et spécial en ce jeudi soir, première fois que Béziers était diffusé et donc que Béziers jouait un jeudi. Défaite 23-28 avec bonus défensif. Alors on va de suite rentrer dans le vif du sujet. Sur Béziers-Lyon, on peut être assez partagé, Rémi. Partagé parce qu'on aurait pu gagner ce match, comme aussi bien prendre une déculottée. Béziers tournait à un moment donné avec un gros déficit. 22-9 pour les Lyonnais. Béziers remonte 23-22 et puis perd ce match sur deux actions lyonnaises en fin de match. L'expérience et la ruse ont joué. Mais qu'est-ce qu'on retient principalement de cette rencontre à la suite de cette première défaite qui aurait pu, comme je disais, augurer bien autre chose?
Je crois qu'il y a beaucoup de sentiments qui traversent l'esprit des supporters biterrois à l'issue de cette rencontre. C'est vrai, on y a cru à un moment, forcément, avec cette remontée fantastique des Rouges et Bleus, notamment avec ces deux essais qui, quelque part, laissent des regrets sur peut-être la tactique adoptée que les hommes de Manny Edmonds ont cherché à trouver, en tout cas par rapport à la transformation du jeu. Donc on y reviendra peut-être un petit peu plus tard. On va revenir sur la première période. En effet, ce score de 8-6 en faveur des Rodaniens. Petit bras, j'ai envie de dire, sur cette rencontre au départ. On n'a pas vu un jeu flamboyant. On était presque même déçus.
Ça s'est cherché quand même en première mi-temps. Hein.
Tout à fait. Donc c'est vrai que c'était plus un échange de ping-pong et on a l'impression qu'on s'observait plus qu'autre chose des deux côtés. Béziers qui malgré tout reste avec deux petits points d'écart au plan shot, avec le carton jaune récolté un petit peu bêtement par Marco Pinto Ferrer, et surtout l'essai encaissé par les Biterrois. Donc on va un petit peu faire un focus sur l'essai je crois que c'est Regard qui a marqué cet essai, l'ailier lyonnais, l'ailier gauche, avec ce fameux en avant perceptible même des tribunes, et d'après les images d'après match qu'on a pu voir, c'était quand même assez conséquent. Et puis forcément la tribune de face, pour pas dire le stade en entier, n'a pas apprécié cet arbitrage-là de M. Boyer, qui prête à confusion sur plusieurs actions de jeu, notamment la blessure et la sortie prématurée de Joss Valentine au bout de 20 minutes de jeu. Donc quand même, le maître à jouer de l'équipe itéroise, qui se fait littéralement tamponner par Tutuya, le numéro 8 lyonnais. Pas de carton jaune sur le coup aussi. Donc alors, en effet, il faut toujours respecter l'arbitre, hein. Il a toujours raison, c'est vrai. Mais par contre, on peut aussi reconnaître que l'homme en vert, ou du moins l'homme en rose pour le coup, pour jeudi soir, a pu se tromper.
Alors effectivement, beaucoup de contestations en tribune. On va revenir justement au niveau de cette transition. Beaucoup de joueurs ont réagi en ce début de week-end sur les insultes proféré à l'encontre de l'arbitre. C'est pas la première fois. Alors qu'il a télé, à mon sens personnel, qu'il a télé ou non, bon, déjà ça change un petit peu l'image, mais je dirais que c'est pas ça qui va donner l'image belle et lissée du public biterrois. Mais beaucoup s'en sont exprimés. On a eu un message de Baki Meite. Il a été relayé par le capitaine Phoenix Batty, notamment sur les réseaux sociaux. Beaucoup s'en sont insurgés, mais beaucoup, c'est la tribune qui a résonné comme ça. Comment on peut interpréter ça? Est-ce que le public biterrois a raison d'exprimer cette colère de cette manière? Est-ce que justement ça ne fait pas préjudice aux joueurs de Béziers, puisque ben, moi personnellement je me mets à la place du mec tout seul déjà au milieu de 30 acteurs, un stade et des caméras qui t'observent. Si en plus tu te fais insulter de la sorte, t'as pas mis d'inverser la tendance. Mais comment est-ce que ça se justifie déjà?
Non, ça se justifie parce que sur le coup, bon, ben, on était un peu, on va dire, énervé suite à cet essai avec cet en avant et à ce plaquage dangereux sur Valentine. Cependant, il y a plusieurs façons de réagir. Je pense que la tribune n'a pas choisi la meilleure.
C'est la facile.
Voilà, on s'en prend de suite à l'arbitre. Après, pour laisser en avant, moi, je dis, enfin, je vais, on voit. Les arbitres ne peuvent pas tout voir, Certes, c'est flagrant, tout le monde le voit, mais peut-être que voilà, je prends pas la défense, mais il y a des actions, ça se voit pas. Sur ce match, ça a été contre nous. Peut-être que pour le prochain, ça sera pour nous. On ne sait pas. Et c'est vrai que voilà, on s'en prend de suite, mais l'arbitre, il fait, je pense qu'il fait ce qu'il peut. Il est dans l'action, et s'il le voit pas, on peut pas changer la donne.
Je pense que c'est un phénomène de groupe en fait, c'est-à-dire que c'est lancé d'une partie à tribune et c'est repris en cœur par tout le monde. Moi-même, mea culpa, ça m'est arrivé de suivre parfois des chants pas forcément sympathiques, donc c'est fait. Par contre, ce que c'est vrai, on peut en discuter forcément, on va pas jouer les vierges effarouchées non plus. C'est sûr que ces réactions épidermiques, ça porte préjudice, bien entendu. L'arbitre, c'est un être humain avant tout. Il a des ressentis, il a forcément une capacité ou non à réagir à ce qu'il entend et ce qu'il perçoit. Et ça peut avoir une influence sur son arbitrage. Donc, oui, dorénavant, c'est vrai que ce serait plutôt plus sympa de dire plutôt merci monsieur Boyer, comme à l'époque on a dit merci monsieur Massiello, de façon ironique, plutôt que d'aller dans l'insulte gratuite et qui à la fin n'apporte rien.
Alors justement, ça peut être ouvert et ça peut ouvrir un autre débat rapide. On en discutera peut-être un peu plus tard. Le top 14 est diffusé en direct. Aujourd'hui, la Pro D2 s'est dotée de moyens techniques puisque tous les matchs sont retransmis. Pourquoi ? Je dis bien pourquoi. Les arbitres centraux des rencontres de Pro D2 n'auraient pas accès à la vidéo. Parce que justement, sur l'essai, il aurait pu demander la vidéo. Sur le plaquage, on l'entend, puisque Rugby Rama a diffusé la vidéo, on entend l'arbitre qui justement dit qu'il n'y a rien, qu'il y a juste un plaquage, alors que Josh Valentine sort à la tête en sang, une minerve, protocole de commotion cérébrale, etc. Enfin, à un moment donné, quand tu as ça, ce serait plutôt pas mal d'avoir un quatrième arbitre qui te parle dans l'oreillette en te disant « Attends, il y a peut-être moyen de revoir la vidéo. » Donc, est-ce que c'est plutôt... parce que je lisais justement ce matin, certaines demandent à rejouer le match. Enfin, à mon sens, c'est complètement stupide, ça sert à rien. Mais plutôt de se concentrer justement sur à demander la vidéo pour assister les arbitres.
C'est un manque de moyens. Un manque de moyens qui va être.
Un manque de moyens. T'as 5 ou 6 caméras autour du stade. Manque de moyens, c'est quel est le manque
volontaire.
Les mecs, le mec derrière son écran, le technicien, il te fait. Enfin, à la télé, puisque le ralenti est sorti instantanément. Les commentateurs télé, ils en ont reparlé même derrière. Ça a fait couler beaucoup d'encre et peut-être de salive. T'as les moyens de le faire. Enfin, le moyen, c'est quoi? C'est l'arbitre qui a juste une oreillette, qui entend un gonze et qui lui dit attends.
Faudra poser la question à monsieur Paul Gauze.
Ouais,
qui a voulu changer les horaires de match, mais qui peut-être va pas suivre sur justement les moyens mis à disposition pour l'arbitrage. C'est certain, quand tu vois des fautes aussi grossières et aussi caractéristiques, ne pas se servir de la vidéo alors que le top 14 en bénéficie largement, c'est bien dommage.
Alors, cette parenthèse fermée, on passe en deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, comme tu le dis, mi-temps 8 à 6. Et comme je le disais en introduction, d'un coup, 22 à 9 pour les Lyonnais. Deux essais coup sur coup, assassins. Le stade s'est tué. On a bien cru qu'on allait prendre à ce moment-là une grosse valise.
Ouais, c'est vrai qu'il y a eu cet écart qui a été fait rapidement. Et je pense que, on va dire, la stratégie qui a été adoptée n'a pas été forcément positive avant de vouloir ouvrir sur les extérieurs à tout prix pour essayer de dépasser ces deux ailiers qui étaient plus légers que ces fameux centres Sukunaveita et Paya qui étaient vraiment sont des monstres absolus de puissance. On l'a vu notamment sur l'essai encaissé par Biterrois, le premier essai en seconde mi-temps. Donc le score était fait. Nous, à la radio, on s'était dit forcément qu'on allait passer à la trappe et bien plus et que Lyon allait presque assurer son bonus offensif et... Dieu sait que Béziers a pu réagir, alors que normalement, les premiers matchs nous donnaient plutôt des signes d'inquiétude à l'heure de jeu. Les Biterrois ont su réagir.
Oui, voilà, ils ont su réagir, mais malheureusement, ils ont fait deux erreurs, je pense, défensives. Ouais, défensives. Voilà, et on se prend ces deux essais, ça fait mal. Ça fait mal autant sur le score, mais aussi mentalement. À mon avis, à ce moment-là, voilà, faut prendre l'équipe, il faut aller leur dire on va se mettre en colère et on va aller maintenant essayer de chercher les points. Et c'est ce qu'ils ont fait, et heureusement, parce que voilà, on revient à ce score de 23-22. Donc bon, derrière, on prend une pénalité et un drop. Malgré tout, voilà, on sait revenir sur... on a su revenir sur Lyon, et ils ont réussi, grâce, comme Rémi ou Seb l'a dit, grâce à l'expérience, ils ont su finir ce match et aller l'emporter au bout du film.
Avec notamment un très très bon Jean-Baptiste Barrera qui, j'ai envie de dire, est en train de marquer de son empreinte ce pack. C'est vraiment un joueur atypique qui va permettre, je pense, d'apporter beaucoup de choses. Hein. Et je pense que l'apport du banc de touche a été important. L'entrée de Ramoneda, l'entrée de Bakimete ont permis d'apporter plus de puissance, qui nous manque un petit peu. On parlera après avec Gwen d'Amzazouer et de Sébastien Max, puisqu'on a, on va regarder ces joueurs, on a fait un petit focus. Il y en a manqué à un moment donné de puissance et j'ai envie de dire de dimension physique pour pouvoir contrer ce véritable mur, parce qu'on s'est vraiment écrasé sur un mur à plusieurs reprises durant toute la rencontre.
Alors, en conclusion, défaite des Biterrois avec bonus défensif, 28 à 23, Lyon s'envole. Béziers, malgré tout, au classement britannique, grâce à sa victoire à l'extérieur à Aix-en-Provence, revient un petit peu à l'équilibre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va écouter, à l'issue de la rencontre, Rémi, tu es allé interviewer Pierre-Olivier Valèze, c'est ça ?
Oui, le président, et je suis allé à la rencontre d'un ancien Biterrois, bien connu de tous, l'entraîneur actuel du Loup, Pierre Mioni, et Gwen aussi a pris quelques sons.
Gwen ?
Ouais, j'ai réussi à avoir un supporter un peu connu, donc Titus, celui qui fait les photos dans le chaud devant et même qui a tenu le magazine.
Eh bien, c'est parti. Avec le président Pierre-Olivier Valèze, on va discuter donc de ce match. Courte défaite des Biterrois, votre ressenti sur cette rencontre ?
De la déception forcément, parce que quand on est capable, on a une équipe qui était capable de revenir de 22-6 et repasser devant, qui reste 5 minutes de jeu, on avait pris espoir. Autant à 22-6, on sentait que c'était compliqué. Mais en étant repassé devant, il n'a pas manqué grand-chose. On ne peut pas reprocher grand-chose aux garçons qui ont vraiment donné leur maximum et qui sont revenus, qui se sont sublimés. Donc voilà, après, quelques fautes techniques, peut-être une ou deux fautes tactiques et puis... quelques erreurs d'arbitrage aussi en première mi-temps notamment. On ne peut pas y penser parce que bon, je vais le revoir à la télé, mais à la télé ça paraît flagrant vu le nombre de SMS qu'on a reçus au moment de l'essai.
Mais bon. C'est quand même prometteur.
Oui, c'est prometteur. Après, voilà, c'est prometteur parce qu'on a vu que les gens, au niveau de l'envie, il n'y avait rien à redire sur l'état d'esprit. Je ne sais pas si l'année dernière on serait revenu de 22-6 comme ça. En tout cas, on a su le faire. C'est que Lyon, c'est du très très costaud, on le sait. Même s'ils ne sont pas au complet, ça reste énorme. Mais bon, aujourd'hui, sur le match, on était capable de passer. On n'était pas vraiment pas loin de passer et ça a failli. Voilà.
Ouais, pour un début de saison, c'est quand même pas mal. Victoire à Aix, chez le promu. Victoire quand même probante contre Mont-de-Marsan. Et ce soir, cette défaite, j'avais à dire, belle défaite malgré tout. Même si le mot n'est peut-être pas justifié.
Je ne sais pas si on peut parler de belle défaite. Une belle défaite, ça n'existe pas. Mais par contre, on pourra dire qu'on a réussi le début de saison après la victoire contre Narbonne vendredi prochain. Là, on pourra dire qu'on a réussi notre début de saison. Il y a ce derby maintenant, il va falloir récupérer parce que je pense qu'il y a beaucoup d'énergie qui a été dépensée. Et puis se projeter tout de suite sur le derby de Narbonne. Et là, contre Narbonne, on est obligé de gagner.
C'est sur ces belles paroles, président, que nous nous quittons. Merci.
Merci.
Allez, avec Pierre Mioni, l'entraîneur du Loup, belle victoire et grosse sensation à Niterané pour ce soir.
Oui, bon, beaucoup de choses positives, mais aussi des choses négatives. Hein, on l'a vu, Béziers, c'est une très très belle équipe. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui va venir gagner ici. C'est pas que le cœur qui parle, c'est qu'ils ont une belle équipe, ils ont des joueurs très dangereux, notamment derrière. Et voilà, donc il a fallu s'y atteler comme il faut en défense pour tenir, pour s'accrocher. Et on est à 13 points devant et après on panique un petit peu. Et cette équipe biterroise a beaucoup de cœur et elle est revenue. Assez logiquement, donc voilà, je crois que même si on avait une certaine sérénité en première mi-temps, on l'a perdu par moment et heureusement qu'on s'est accroché jusqu'à la fin.
Justement, on parle de ce retour, Pierre, on a senti Lyon qui n'a pas paniqué, au contraire, beaucoup d'expérience dans les lignes arrière, avec Podguitar qui est bien rentré avec Figueroa, vraiment, on a senti cette sérénité.
Ouais, heureusement que Jack a fait une bonne rentrée avec Augustine, heureusement, parce que Stevie était un peu à la peine, hein. Donc j'avais fait le choix de faire 6-2, donc je voulais pas le faire rentrer trop tôt. Mais après j'ai lancé les dés, j'ai fait rentrer les deux en même temps. Donc voilà, je crois que c'est. On a eu de la chance de ne pas péter encore un mec derrière. Voilà, mais j'avais prévu un plan B, donc c'est bien. C'est bien.
Coaching payant pour finir, une impression sur Béziers, Pierre, comment vous trouvez ce club aujourd'hui ?
Non, mais j'ai toujours suivi ce club parce que ça a été mon deuxième club après Toulon auquel j'ai eu beaucoup de joie ici, beaucoup de temps de jeu, beaucoup d'expérience qui m'a apporté ce club. Et voilà, je crois que ça ne s'oublie pas. J'ai passé 4 ans ici, j'ai toujours des amis, des gens qui m'appellent, des gens qui pensent encore à moi. Et Et voilà, donc si c'est le cœur qui parle, je dis que ce club va beaucoup mieux. Et ça se voit un peu de l'extérieur. Je sens beaucoup plus de sérénité qu'avant, parce que ce club aussi, il en avait besoin. Et je m'aperçois qu'ils sont en train de construire, et c'est quand même très très bien.
Pierre, on ne souhaitait que le meilleur pour le Loup cette année.
Ouais, ben, le meilleur, comme tout le monde. Hein. Tout le monde a envie de monter, tout le monde a envie de s'accrocher. Et nous, moi je découvre la Pro D2, c'est un championnat très difficile où il a fallu que je récupère des joueurs mentalement qui étaient un peu à la peine. La moitié de mon effectif était là l'an dernier, ils ont quasiment perdu énormément de matchs. Donc il faut redonner un peu cet esprit de gagner, de compétiteur pour élever notre niveau de jeu. Donc j'essaye de mettre des choses en place simples pour qu'on prenne de la confiance. Je crois qu'avec des victoires, ça va nous aider.
Pierre, merci.
Merci.
Bon, Titus, première défaite de la saison contre Lyon. Qu'est-ce que tu en penses ?
Il y a plusieurs sortes de défaites. Celle-là, je l'encaisse plus facilement parce que j'ai trouvé quand même qu'il y a une grosse vaillance devant. On connaît notre petit point faible cette saison, l'axe droit de la mêlée. Ça fait 3 matchs qu'on subit et avec une équipe supérieure techniquement, ils arrivent à faire la différence. Je reste persuadé que si on arrive à résoudre ce problème, déjà ça ira bien mieux. Ensuite, on a marqué quand même 2 essais avec toute la vaillance possible imaginable du PAC. Ça, c'est le point fort de Béziers, c'est le point fort de nos joueurs. On connaît les différences de budget, on connaît la différence de force d'équipe. Aujourd'hui, la technique a primé, toujours à la limite du hors-jeu, voire souvent hors-jeu. Lyon a fait la différence, mais je pense que c'est mérité. Chaque fois qu'ils ont un peu accéléré, quand même, ils ont mis les points qu'il fallait au bon moment.
Bon, une question qui a fait un peu polémique. L'essai en avant, premier essai de Lyon. Est-ce que ça fait regretter quand même un peu ?
Bon, à chaque match, je pense qu'il peut y avoir des erreurs d'arbitrage. Moi, personnellement, j'étais de l'autre côté du terrain puisque je fais les photos. Donc, je ne pourrais pas juger quelque chose que je n'ai pas vu. S'il y a un avant et que l'arbitre ne l'a pas vu, ben, c'est comme ça. Peut-être sur un autre match, un jour, ça sera le contraire.
Finalement, globalement, quels sont les points positifs et les points négatifs quand même à retirer, à part la mêlée ?
Ben, disons que je trouve quand même que déjà sur le recrutement, on a beaucoup de vaillance. On a ce jeune rouquin, excusez-moi, je n'ai pas le nom en tête. On a Lambé qui a fait un énorme match à 21 ans. On a ce numéro 6, c'est pareil, Barrère extraordinaire. Un chewing-gum qui court à 2000 à l'heure dans tous les sens. Vraiment, là, quand même, on a quand même des bonnes valeurs individuelles. Collectivement, on sent par rapport à l'an dernier, là, ils y sont vraiment. Après, il faut voir avec le temps, les blessures, si on va arriver sur l'ensemble de la saison à garder ce mental, cette vaillance. Si on reste comme ça, je pense que l'objectif de la SEB pour cette année sera atteint.
Dernière question, le plaquage sur Josh Valentine, qu'est-ce qu'on en dit ?
Pareil, là je ne l'ai pas vu, il y a des choses que je vois et que je pourrais te raconter. Là franchement, c'était derrière, je ne l'ai pas vu. Bon, ça fait partie du rugby, il y a des gros plaquages, il y en a toujours eu. On peut toujours critiquer les plaquages. Moi, je ne l'ai pas vu, je ne jugerai pas. Et puis bon, nous aussi, des fois, on en met. Hein. Il y en a quelques-uns de chez eux qui ont eu mal, je pense, et qui vont avoir mal ce soir.
Merci beaucoup. Avec Jean-Baptiste Perra-Soustalé. Jean-Baptiste, alors comment vas-tu suite à cette blessure ?
J'arrive en fin de convalescence. Voilà, le plus dur est derrière moi et je vais rattaquer la semaine prochaine avec beaucoup d'envie.
On espère. Alors dis-moi, même si tu n'as pas fait les préparations, tu dois connaître le Loup. Qu'est-ce qui t'inspire ce match ?
C'est l'ogre de la poule. Ils arrivent du niveau supérieur. Clairement, ce sont eux les favoris. Donc voilà, à nous de rester dans nos schémas tactiques. Il ne faut pas qu'on dénature notre jeu. Et voilà, il faut qu'on base tout sur la vitesse d'exécution. Et voilà.
T'as vu de l'extérieur de l'équipe, donc de la SBH, qu'est-ce que t'en penses comparé à l'année dernière ou à ce que tu as pu vivre avec eux ?
Mais par rapport à l'an dernier, le début de saison, il semble similaire. Les deux premiers matchs l'an dernier, on les avait gagnés. Ben, l'an dernier, jusqu'à la 8e ou 9e journée, on était dans les clous, on était dans les deux premiers. Donc, espérons que cette année, on commence pareil, mais qu'on finisse beaucoup mieux. L'an dernier, ça s'est fini un peu en eau de boudin. Et voilà, là, j'espère que l'ambiance en interne sera propice aux bons résultats jusqu'à la fin de l'année.
Quand même, tu dis 2 matchs gagnés, un match à l'extérieur, c'est encourageant, non ?
Ouais, c'est... C'est très bien de bien voyager. C'est très bien de bien voyager. Je fais une comparaison par rapport à l'an dernier, parce que l'an dernier, les deux matchs à l'extérieur qu'on a gagnés, c'est les deux matchs en début de saison à Colomiers et à Albi. Là, c'est le match à Aix. Donc, ça ressemble un peu. Donc, c'est de bon augure. Hein.
Merci beaucoup.
Ouais, je t'en prie.
Et bon rétablissement.
Ouais, bonne continuation.
Merci. Alors, les joueurs que l'on suivait, Gwen, dans le mag du rugby, on avait décidé de suivre Hamza Zouer pour les avants et Sébastien Max pour les arrières. Alors, dans ce débrief, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces joueurs? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qu'ils ont apporté sur le match? Est-ce qu'ils ont été à leur avantage? Ou au contraire, pas du tout?
Malheureusement, du côté de Hamza Zouer et de Sébastien Max, ils ont été assez transparents. Donc je vais commencer par Sébastien Max. Sébastien Max a été vraiment un peu, je vais pas dire faible, mais ça a été assez juste pour lui. Il avait deux gros morceaux en face, et c'est vrai que pour la défense, ça c'était assez compliqué. Mais ensuite, il a fait ce qu'il a pu, et les deux centres dont je ne me rappelle pas le nom ont eu raison de lui. Ensuite, Hamza Zouer. Voilà, il a été aussi un peu en manque de puissance dans la mêlée. Il a plusieurs fois il s'est fait percuter et il a reculé, que ce soit en défense ou en attaque. Donc voilà, on sait que les deux joueurs ont fait de leur mieux, mais je pense qu'ils ont été un peu légers sur ce match.
Ouais, c'est sûr que la dimension physique a été criante hein, là sur ce coup. Hamza, il a subi beaucoup. Alors il a fait son match, y a pas de souci. Mais face à cette troisième ligne, j'ai envie de dire impressionnante du Loup, il y a eu beaucoup de reculades malgré tout. Et peut-être que Mania voulait rentrer justement Hamza Zouer pour protéger la Kim Nro sur le second rideau défensif. Et on s'est rendu compte qu'en fait, la Kim Nro était en permanence en pression. Il a plus ou moins voué à la fin du match. Donc ça, je pense, ça a été la clé du match, une des clés du match. Et pour finir sur Max, tu l'as dit, il s'est transpercé sur un essai en première main magnifique du Loup après une touche première main. Vraiment un somptueux essai. Et c'est là qu'on s'est vu qu'on manquait aussi de puissance au centre du terrain. Mais je vais associer aussi Pouletoua, puisque les deux ont défendu sur le joueur et n'ont pas bien communiqué.
Alors, juste une parenthèse sur les joueurs. Alors, un joueur qu'on n'a pas suivi. Je voulais parler de Marco Pinto-Ferrer. Troisième match, deuxième carton jaune. On connaît, justement, on le rappelle, la règle qui fait que, au bout du troisième carton jaune, le joueur est suspendu un match. Ce qui veut dire que, prochainement, on le saute pas, mais connaissant le tempérament du garçon, un derby se profile contre Narbonne la semaine prochaine. Comment vont se gérer les prochaines rencontres? Dès l'instant que Marco prendra un jaune, on voit, alors c'est pas une critique, mais on voit malgré tout les difficultés que peut avoir Steve Fualo quand il rentre. On perd pas mal de ballons en touche. Alors je dis pas qu'il est incriminé, mais d'un coup le changement se voit, ou du moins des tribunes. Derrière, Marco Pinto-Ferrer, le jour où il est absent, comment va se gérer la succession, au moins sur un match, surtout si c'est un match important?
Alors, intéressé comment? Ça serait Falip, le troisième étalon du club, l'espoir, ouais, certainement. Maintenant, voilà, lancer de le grand bain comme ça, c'est pas forcément lui rendre un cadeau. C'est vrai que Marco Pintofer, qui pourtant, l'année dernière, avait fait des progrès remarquables à ce niveau-là, après son carton rouge récolté à Narbonne, on s'en rappelle tous. Je crois qu'il avait subi un seul carton jaune durant le reste de la saison. Donc, pour justement quelqu'un de tempérament, comme tu le dis, c'était à souligner. Maintenant, voilà, deux cartons jaunes en trois matchs, c'est trop, beaucoup trop à ce niveau, surtout pour des fautes aussi visibles en face du jeu de l'arbitre, hein, puisqu'il a pris un carton jaune pour un coup de tête, hein, et Dieu sait qu'il s'en est bien sorti aussi, parce que le règlement indique clairement qu'un coup de tête sur un joueur à terre, c'est le rouge direct. Il faut le rappeler aussi, donc il n'y a pas eu que des erreurs du côté du Loup, soyons honnêtes. Hein. Voilà, donc c'est un paramètre qui va être pris en considération. La pause va arriver, j'espère que ça remettra un petit peu tout le monde dans le bon sens de la marche.
On verra tout ça, surtout par rapport à Narbonne, à quelle composition sera proposée. On va revenir vite fait ensemble sur les scores. Donc au-delà de la défaite, on le rappelle, de Béziers à domicile face au Loup, 23 à 28 pour les Lyonnais. L'USAP s'est difficilement dégagé de Mont-de-Marsan et Aimé Giral. 14 à 9 pour les Catalans, bonus défensif pour Mont-de-Marsan. Biarritz qui sombre, 3 journées, 3 défaites, deuxième défaite à domicile face à Albi, qui lui engrange une seconde victoire à l'extérieur après sa déconvenue face à Bayonne à domicile. 20 à 9 pour les Albigeois, même pas de bonus pour les Biarros à Aguilera. Colomiers, bonus offensif des Columérins face à Carcassonne qui prend sa deuxième défaite à plus de 30 points, 31-9 pour les Columérins. Montauban-Aurillac qui a été reporté à une date ultérieure suite aux intempéries du côté de Sapiac et de la ville de Montauban. Narbonne qui bat Bourgoin 18-13, bonus défensif pour les Berjaliens. Tarbes qui bat encore, nouvelle défaite des Aixois de Provence Rugby à Trélu face à Tarbes 28-10. Aix comme Biarritz, un petit peu en mauvaise posture. Et ensuite, dimanche, on aura le premier match des Dacquois, Dax-Bayonne, que l'on suivra. On refera un petit point sur le classement. Ce sera lors de la prochaine journée, le prochain magazine, puisque là, il y a pas mal de matchs qui n'ont pas eu lieu. Les Dacquois qui manquent des matchs, Perpignan qui manque un match.
Les championnats tronqués. Hein.
Tarbes également. Donc, le classement en ce moment ne veut trop rien dire. C'est juste, premier point positif, malgré tout, pour les Biterrois. Béziers est la meilleure attaque du championnat. Meilleure attaque même de Val-Lyon. 9 essais en 3 matchs pour les Biterrois. On se console comme on peut. Béziers est pas troisième en défense, je dis une bêtise. Ils sont troisième au classement.
Voilà,
ils sont troisième au classement, c'est ça. Mais Béziers est la meilleure attaque. Hein. Donc, malgré tout, on pestait un petit peu sur le jeu et sur la stratégie face au Loup. Mais on peut dire que au bout de 3 journées, la stratégie de manière nemeuse d'envoyer du jeu paye, puisque Béziers a une belle arme offensive cette saison. Petite information, juste si vous nous écoutez, pour le prochain match face à Narbonne, si pour les supporters biterrois, normalement, les supporters narbonnais qui prendront des places en populaire, les populaires seront ouvertes, puisque comme Lyon, c'est un match de gala, donc le tarif va augmenter un petit peu au niveau de la tribune de face. Si vous ne souhaitez ou vous ne pouvez pas prendre de place en tribune de face pour diverses raisons, les tribunes populaires seront ouvertes, les biterrois seront en populaire sud pour ce match-là. Les Narbonnais, normalement, devraient être en populaire nord. Alors, il ne s'agit pas de parquet, entre guillemets, nord ou sud, mais des Biterrois que vous pouvez retrouver au bas de la tribune de face, côté carré B, si je ne dis pas de bêtises, avec grande banderole, tambour, etc., seront positionnés en populaire sud. Donc, accompagnez-les si vous devez être en populaire pour faire un petit carré de supporters bruyants et mettre de l'ambiance derrière les poteaux. Quant à nous, on vous donne rendez-vous, donc ce débrief, vous pouvez le retrouver tous les samedis, 18h, 20h, ou en rediffusion le dimanche à 19h. Nous, on se donne rendez-vous avec Rémi et Gwen lors du Mac du rugby jeudi soir, en rediffusion vendredi 13h, 18h. Déjà, on préparera le dernier match de cette première phase, Béziers-Narbonne. Ensuite, on vous le rappelle, une grosse pause de 5 semaines. Pause de 5 semaines à cause de la Coupe du Monde et on se donnera rendez-vous pour le championnat de Pro D2 courant octobre. Il y aura toujours du rugby sur RCB Radio Ciel Bleu avec une quatrième mi-temps qui arrivera. On aura le temps d'en reparler la semaine prochaine. Rémi, Gwen, passez un bon week-end. On se donne rendez-vous jeudi soir. En attendant, passez un excellent week-end à tous, un bon début de semaine et surtout, restez fidèles à RCB, Radio Ciel Bleu, et allez Béziers.